En 2020, pour les cadets première année, il n'y a eu que 35 demandes de licence. 35 demandes de licence pour ces gamins, un pourcentage qui va constater qu'il n'est pas fait pour ça, un pourcentage qui ne sera pas tenu, soutenu par les parents, un pourcentage qui, en grandissant, va trouver une petite amie qui n'est pas intéressée par le vélo. Qu'est-ce qui va rester quand on va arriver à la catégorie des espoirs? Mais quasiment rien.
Coureur à l'époque de Rick Van Looy et Eddy Merckx, directeur sportif puis manager durant plus de 20 ans dans les années 90 et 2000, Gérard Bullens poursuit sa route désormais en tant que consultant pour la télévision. Toujours passionné, il mène également un projet de formation pour les jeunes cyclocrossmen francophones avec David Boucher. Partager sa passion, pousser les jeunes au vélo, décrypter le peloton, Gérard Bullens conserve son franc-parler légendaire pour parler cyclisme et formation. Entre deux commentaires sur la RTBF et Proximus Sport, il s'est posé au micro de la tête dans le guidon.
Et depuis une dizaine de jours, on a des réactions aussi de gens qui sont intéressés par aider au niveau plutôt sponsoring, de façon, je vais dire, pas massive, mais qui permettrait quand même, en tout cas, de relancer dans la région bruxelloise un club avec tout d'abord une dizaine de membres pour le cyclocross. Et aussi un aspect cyclosportif pour les jeunes essentiellement, parce que bon, pour les adultes, ça ne m'intéresse pas directement, et un aspect aussi tourisme. Donc, l'essentiel, c'était évidemment de mettre la possibilité, de donner la possibilité à des jeunes de faire du vélo sur des terrains privés. Vous n'êtes pas sans savoir que le week-end dernier, il y a eu de nouveau deux cyclistes, un homme et une femme, qui ont été tués dans des accidents de la route. Et ce n'est pas porteur pour les parents dont les enfants voudraient faire du vélo, évidemment, quand il y a un caractère un peu sportif et que c'est sans eux. Donc, les deux, trois dernières semaines, il y a eu un bon avancement et je pense qu'on pourra lancer quelque chose d'ici l'été. Il y a évidemment un autre aspect, c'est cet aspect de la pandémie qui ne permet pas de faire des sorties de groupe, etc. Même sur terrain privé, que ce soit un champ vallonné ou que ce soit, je vais dire simplement, un bois, je ne tiens pas à aller à l'encontre des règles parce que effectivement. En général, les parents amènent l'enfant à l'endroit déterminé et donc ils restent là tous ensemble et je pense que ce n'est pas la bonne chose pour l'instant. Mais je peux dire certainement à 95% que le train est sur les rails, qu'il y aura un nouveau club à Bruxelles pour le cyclocross pour les jeunes. Et enfin, quand je dis à Bruxelles, c'est dans l'agglomération bruxelloise. Et on se tournera aussi vers la Wallonie, évidemment, pour ceux qui veulent faire du cyclocross. Et qu'il y aura une activité pour attirer les jeunes vers le vélo. Et on s'est fixé une limite inférieure de 9 ans pour qu'il y ait quand même un peu d'indépendance déjà des enfants par rapport aux parents automatiquement.
Voilà. Est-ce que justement trouver des terrains comme cela, que ce soit de cyclocross, j'imagine que ça reste quand même compliqué parce qu'il faut trouver, certes, des terrains, il doit y en exister, mais il faut encore trouver l'autorisation, il faut que le terrain soit finalement un peu adapté aussi à des sorties d'entraînement, on ne peut pas prendre n'importe quel but ou n'importe quel champ. Comment est-ce que vous évaluez cela ?
Non, effectivement, je pense que là, il y a eu de belles propositions. Certaines sont réalisables, d'autres ne le sont pas. On a eu aussi une proposition dans certains endroits de soutien de l'armée pour aménager les terrains. Donc, ce sont quand même des éléments qui sont vraiment intéressants. Et dans ce cadre-là, ben, franchement, ce qui bloque un tout petit peu maintenant, c'est justement cette interdiction de rassembler les gens et cette volonté aussi de ne pas donner un mauvais exemple, parce que ce serait évidemment négatif. Mais je pense que le fait de trouver des terrains ne sera pas un vrai problème. Je vais même dire qu'on a eu jusqu'à présent trop de propositions, et comme vous le dites très bien, il y a des propositions où on nous demande un aménagement, où un aménagement serait nécessaire, qu'on ne peut pas vraiment réaliser nous-mêmes, ce serait alors trop colossal. L'idéal, ce serait soit dans le Brabant wallon, soit dans l'agglomération bruxelloise, de pouvoir créer à terme une sorte de bike park, comme on l'a fait à Kurne. Mais l'histoire de Kurne que j'ai été visiter, et avec d'ailleurs les organisateurs de Kurne, Bruxelles-Kurne, ça a quand même coûté 600 000 euros. Donc je pense que là, il vaut mieux se tourner vers un terrain semi-permanent qui est fermé, où on a l'autorisation. Mais en Wallonie, il y en a d'autres. Hein, il y a même des bike parks existants. Mais le problème, je pense, pour le petit Bruxellois, c'est de pouvoir se déplacer, et c'est même d'avoir parfois pour certains un vélo. Il y a pas mal de gosses qui sont intéressés mais qui n'ont pas de vélo. Mais là, on a une solution pour mettre des vélos à disposition.
Est-ce que vous avez aussi de plus en plus de jeunes justement qui viennent vers vous ou vers la FCWB pour justement se mettre au cyclocross? Est-ce que justement l'avènement de Wout van Aert et de Mathieu Van Der Poel, Tom Pitcock, etc., ça a un peu poussé les jeunes à aller vers le cyclocross plutôt que vers le VTT ou en complément du VTT ou de la route?
Ben, je pense que c'est plutôt, comme vous le dites, en complément d'autres activités. Ce qui, moi, m'a impressionné et ce qui m'a fait me tourner vers un type de projet comme celui-là, c'est le fait de savoir qu'en 2020, pour les cadets première année, il n'y a eu que 35 demandes de licence. Mmh. Or, l'arrêt pandémie se situe à la mi-mars, et donc celui qui voulait une licence à ce moment-là l'avait demandé parce que tout le monde est excité, il suffit de voir les journaux, par l'entrée en matière et le début de la saison cycliste ici en Belgique. Et me disant cela, je me suis dit, 35 demandes de licence pour ces gamins, un pourcentage qui va constater qu'il n'est pas fait pour ça, un pourcentage qui ne sera pas tenu, soutenu par les parents, un pourcentage qui, en grandissant, va trouver une petite amie qui n'est pas intéressée par le vélo. Qu'est-ce qui va rester quand on va arriver à la catégorie des espoirs? Mais quasiment rien. Et donc, je me dis, pour la partie, je vous parle de la partie wallonne du pays, hein, je ne l'ai pas cité au départ, mais je vous parle de la partie wallonne, Wallonie-Bruxelles, et je me dis, il y a quand même une équipe de développement Wallonie-Bruxelles, il y a une équipe professionnelle Wallonie-Bruxelles, qui n'est pas toujours alimentée uniquement par des Wallons, mais manifestement, ils ont aussi des partenaires qui leur permettent de renforcer l'équipe en allant chercher des coureurs à l'étranger ou même en Flandre, ça c'est pas un problème, mais je me dis quel est l'avenir si le nombre est si peu important. La deuxième réflexion a été de dire pourquoi est-ce qu'il y a un vrai succès du cyclocross féminin aux Pays-Bas alors qu'ici en Belgique, franchement, j'ai beaucoup de respect pour Hélène Van Looy, pour Loes Sels, pour Alicia Frank, mais la seule parvient encore à faire un résultat, c'est Sanne Kent, dont on connaît les qualités au cours des dernières années avec tous les titres qu'elle a remportés. L'âge aidant, je ne vois pas beaucoup de relève à court terme, parce que dans la catégorie des juniors, ils n'ont pas pu courir cette année-ci, et chez les cadettes, il y a de la qualité. Encore faut-il leur donner l'occasion de grandir harmonieusement dans les compétitions, et celle, comme celui qui habite au Luxembourg, ben, il faut quand même traverser toute la Belgique pour courir. Et donc, vous me posez la question, est-ce qu'il y a un intérêt grandissant avec Wout Van Aert et aussi la médiatisation du cyclocross qui est une religion en Flandre? Je dis oui, parce qu'il y a de belles initiatives avec le challenge Bensberg ouvert à tous, même avec des vélos de VTT. Je pense que c'est par là que ça doit passer et que comment je vais dire, la pérennité du cyclisme en Wallonie et à Bruxelles, je ne parle absolument pas des gens qui vont travailler en vélo, évidemment, parce que là, on a fait, je trouve qu'il y a eu de gros efforts, même au détriment des automobilistes, passe par le fait d'accueillir des jeunes et de les aider sur des terrains privés à l'abri des dangers de la circulation, et de cette manière-là, en organisant des activités à leur niveau, que ce soit, ça doit être tout d'abord ludique, ça c'est très très clair, mais que ce soit avec une optique compétition ou une optique cyclo, je pense que ça passe par là, ou sinon on aura de moins en moins de coureurs francophones en Belgique.
Est-ce que justement la formation de ces jeunes aujourd'hui, on le voit avec des initiatives comme Sven Nys, etc., est-ce que ça doit passer par le privé plus que par les fédérations, ou en tout cas est-ce qu'il doit y avoir une sorte d'accord? Est-ce que les fédérations sont un peu pour le moment bloquées et n'ont plus forcément d'argent et d'investissement à mettre pour amener les jeunes vers le vélo?
Je pense que très très franchement, il faut une intervention du privé. Et ce que Sven fait, et vous savez que je le connais bien puisque je l'ai eu pendant quand même 6 ans dans l'équipe, est assez remarquable. Il bénéficie évidemment de son propre bike park. Il bénéficie aussi du soutien de Golazzo et de partenaires. Et je vais dire, oui, c'est très intéressant ce qu'il fait. Il faudrait même que dans l'aspect de ce qu'il fait, ça soit ouvert à plus de jeunes sans intervention financière des parents. Et dans ce cadre-là, comme vous le dites, ben, pour notre projet, je pense qu'il faut absolument avoir l'aval de la FCWB, de la fédération, c'est clair, parce que une aide, je n'attends pas, dans la mesure où j'ai parlé très très ouvertement avec Thierry Marichal, le président, et comme vous le dites, ils n'ont pas les moyens pour ça. En plus, en partant de l'idée du cyclocross, le cyclocross, me répond-on, n'est pas un sport olympique pour l'instant, et donc l'ADEPS ne s'y intéresse pas. Je trouve quand même que l'ADEPS, mais je n'en ai jamais discuté avec eux jusqu'à présent, je vous avoue franchement, devrait s'intéresser à cet aspect sport pour tous, comme la ville de Bruxelles, par exemple, aide des clubs de basket, aide des clubs de foot, aide Cure Game Sportif qui existe encore, mais qui est plutôt flamandisé et dans la partie du Brabant flamand entre Le Saint-Pierre et Herne, parce que finalement, toutes les activités qu'on crée pour les jeunes et qui sont bien encadrées et qui apportent un plus à ces jeunes, les empêche de s'ennuyer, de perdre leur temps, et je suis gentil quand je me limite à ces deux caractéristiques-là.
Je comprends.
Mais je pense que non, il ne faut pas le faire sans la fédération, faire avec la couverture de la fédération, et je pense que on sait très très bien à la fédération que mon objectif, moi, c'est la passion pour le vélo et permettre à des jeunes de faire du vélo, que ce soit chez les garçons comme chez les filles, mais je vais dire dans le vélo, même si par le passé j'ai eu une équipe professionnelle pendant 25 ans, mon dada sur le vélo moi-même a toujours été le cyclocross, et j'ai la prétention de bien le connaître et de suivre son évolution. On est allé en Suisse pour ça, on est allé aux Pays-Bas pour voir pourquoi il y avait tant de jeunes qui faisaient du cyclocross et tant de filles, etc. Et bon, si on a eu 4 champions du monde différents, ce n'est quand même pas
un hasard.
Partir dans l'inconnu, ce qu'on essaye de faire. Mais la deuxième idée, c'est essentiellement réunir des jeunes avec un minimum de danger. J'ai organisé au niveau scolaire dans les années, tout début des années 80, deux activités qui étaient des activités en vélo au niveau cyclotourisme. Et on avait des jeunes jusque 16-17 ans. Mais à cette époque-là, on avait des filles de 14 ans qui ont réalisé en fin de saison un brevet de 200 km.
Oui, donc évidemment, il y a de l'envie.
Oui, je suis certain qu'il y a de l'envie et je suis certain qu'il y en a qui aiment ça. Mais aujourd'hui, faire la même chose avec l'évolution de la circulation, avec la manière dont on a structuré aussi les rues, les ronds-points, les ralentisseurs, etc., c'est beaucoup plus compliqué. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut savoir bien piloter avant de les emmener sur la route.
Là, vous parliez de pilotage, mais j'allais revenir justement sur une autre évolution du cyclisme. C'est finalement le cyclisme connecté avec Zwift, avec ce type d'application. Est-ce que ça peut justement être aussi une méthode d'entraînement complémentaire à ce qui est déjà existant? Est-ce que justement mettre les jeunes sur ce type d'application, ça peut être aussi quelque chose à envisager?
Je pense que c'est envisageable à terme, mais que vous vous adressez à partir de ce moment-là à une population qui est déjà une population aisée, parce que l'ensemble du système n'est absolument pas gratuit. L'investissement dont je vous parlais au niveau scolaire, en fait, c'est le directeur de l'école à l'époque qui avait compris que cette activité pouvait marcher et qui, en 2 ou 3 ans, avait acheté 20 bicyclettes. Pas des bicyclettes haut de gamme pour faire de la compétition, mais la base du vélo avec 10 vitesses. Un vélo pas cher, on ne va pas citer de marque ici, mais il y a moyen de trouver aujourd'hui un vélo pour 500 € qui, étant bien entretenu, tient pendant des années et des années quand il est mis entre les mains d'enfants, etc. Et quand je dis d'enfants, ça va jusque 14 ans, à partir du moment où certains veulent s'essayer chez les cadets, ce qu'on appelait nous avant les débutants, là, il y a un investissement nécessaire en vélo de meilleure qualité, parce qu'ils sont évidemment confrontés à des enfants qui ont le meilleur, bien sûr.
Est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec la pandémie malheureusement qui a lieu, il y a eu énormément d'annulations de courses, principalement chez les jeunes, hein, si les professionnels ont continué, et encore, il y a eu beaucoup de courses qui ont été annulées aussi chez les jeunes, il n'y a quasiment rien eu depuis plus d'un an. Est-ce qu'on se retrouve finalement avec presque une génération perdue désormais, alors que dans certains pays, on continue à rouler, notamment en France, il y a certaines courses qui se déroulent encore. Ici, en Belgique, on a vu que Belgian Cycling disait encore, on va continuer jusqu'au 1er avril sans course. Est-ce que ça risque de devenir justement un problème pour le futur du cyclisme belge ?
Je pense que là, pour les jeunes, c'est un véritable problème, parce qu'ils n'ont pas pu s'exprimer pendant toute une saison, que ce soit sur la route ou en cyclocross. Et effectivement, j'ai vu aussi passer Belgian Cycling qui dit 1er avril. J'ai un doute énorme là-dessus quand je vois l'évolution de ce qu'on nous dit au niveau de la pandémie. Finalement, 1er avril, c'est dans un mois. Et quand on devra atteindre les chiffres, je vais dire limite, et on y ajoute 3 semaines, eh bien, nous sommes déjà, sans les avoir atteints, au 1er avril. Donc, à mon avis, ça ne sera pas avant le 1er mai. Si on pouvait recommencer une saison normale à partir du 1er mai, et si les petits organisateurs de courses pour jeunes, parce que c'est là qu'est le problème, ont la possibilité de mettre en place tout le protocole qui est réclamé par les fédérations, ils auront perdu un an, manifestement. Et si on est créatif avec les catégories, avec les âges, il y a certainement moyen de récupérer cela. Si effectivement il n'y avait pas de course en 2021, les jeunes auraient passé une catégorie complète. En fait. Et là, je pense que c'est vraiment dommageable par rapport à d'autres pays qui, dans une autre gestion, mais loin de moi la volonté de critiquer ceux qui doivent prendre des décisions ici en Belgique, parce que je voudrais absolument pas être à leur place. Mais effectivement, pour ces jeunes-là, passer deux saisons, c'est-à-dire une catégorie, celle des cadets ou celle des juniors, ou même celle des espoirs, et regardez les difficultés de quelqu'un qui est déjà un champion, et je pense à Thibaut Neys, eh bien, c'est effectivement très dommageable.
Il a dû rouler toute la saison avec les professionnels. Je crois qu'il a fait un top 10 ou peut-être deux top 10,
oui,
mais
je
compliqué
pense qu'il
pour
a
lui.
Fait. Je suis certain de vous confirmer un top 10, mais on a bien senti que c'était compliqué pour lui et que c'est bobo sur bobo parce qu'il se bat contre des moulins à vent finalement. Vous savez, se retrouver dans la même course que Van der Poel, que Wout Van Aert, que Toon Arts, que Iserbyt, ce sont quand même des valeurs sûres du cyclocross et à 18 ans, c'est quand même très très compliqué d'aller contre cela, même si vous avez un super talent, un super moteur, toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez vous entraîner correctement, mais malgré tout, on voit qu'il en a souffert. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, hein, c'est très très clair qu'au niveau de sa motivation, au niveau de son implication, au niveau aussi du ressenti physique, les bobos du dos, etc., c'est se battre contre trop fort parce que les écarts d'âge sont trop grands, en fait.
Je reviens un peu sur votre passé de manager chez Lanbo Credit. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez qu'il serait encore possible de gérer une équipe comme vous l'avez fait par le passé avec Lanbo Credit, que ce soit au niveau de la gestion des sponsors, de rassembler un budget, faire face aux demandes de l'UCI aujourd'hui qui souhaite professionnaliser encore plus le cyclisme? Est-ce que vous voyez vraiment une grosse différence déjà par rapport à il y a 10 ans?
Oui, la différence est évidemment énorme. Je pense que c'est encore faisable, moyennant évidemment une augmentation plus que substantielle des budgets. Aujourd'hui, on assiste quand même dans le cyclisme à un phénomène auquel moi je n'ai jamais pensé. Auparavant, selon moi, il y avait deux catégories de sponsors. Il y avait des sponsors dont l'intérêt était de faire passer le nom, de faire passer un produit. Et il y avait des sponsors qui n'étaient pas directement dans cette optique commerciale, mais qui se retrouvaient plutôt dans un aspect où ils étaient passionnés et ils pouvaient consacrer une partie du budget marketing de leur société à leur passion. Et donc, on sponsorisait une équipe. Les montants n'étaient pas les mêmes aujourd'hui. Depuis 2-3 ans, on voit apparaître dans le vélo une sorte de marketing étatique avec l'arrivée de Bahreïn, avec l'arrivée des Émirats, avec l'arrivée tout récemment de Israel Cycling, qui se servent finalement du cyclisme dans un but vraiment qui sont au cœur d'enjeux géopolitiques et d'enjeux où finalement on va essayer de cette manière-là de s'attirer le cyclisme mondial. Alors quand on parle de grands chimistes comme Ineos où les budgets peuvent être mirobolants, quand on parle de pays comme ceux-là qui sont quand même si ce sont de petits pays comme Bahreïn, des pays où les richesses sont colossales, comment voulez-vous qu'une petite société typiquement belge rivalise encore contre cela? Et je pense que le premier à bien le savoir, c'est évidemment Patrick Lefebvre qui a bien compris que s'il n'y avait pas déjà eu Bacala derrière pour pomper un peu d'argent parce que c'était une personne, je vais dire, riche et qui était passionnée de vélo et qu'il y avait Zdeněk Štybar, son compatriote, avec De Kooning, avec Quickstep, ça ne devient plus possible de rivaliser.
Et c'est presque un miracle, entre guillemets, qui continue, entre guillemets, à avoir un tel collectif. face justement
oui,
à
Ineos, etc. C'est le miracle de la connaissance du vélo et du scooting, en fait.
Mmh.
Je pense que c'est un peu le miracle que nous avons, miracle tout étant
oui, oui.
bien entendu entre guillemets, que nous avons réalisé quelques années avec un bon scouting, avec une bonne cohésion pour en 2003-2004 gagner 27 courses, finir troisième du Giro.
Mmh.
Avec une équipe qui avait comme budget à cette époque-là, il n'y avait pas 2 millions. Hein. Donc, imaginez aujourd'hui, avec 2 millions d'euros, vous n'êtes plus nulle part.
Mmh.
Les implications du CI ont augmenté, les déplacements ont augmenté, tout aujourd'hui. Et donc, si vous me demandez, est-ce que je pourrais réaliser aujourd'hui ce que j'ai réalisé dans ces années-là avec le même budget, ben, je vous dis absolument pas.
Mmh.
Absolument pas. C'est... Mais bon, à ces époques-là, pardon, c'était réalisable. Et je pense qu'on avait tout à notre disposition pour pouvoir être probant, mais avec un grand maximum d'un double programme. Mmh. Aujourd'hui, le World Tour impose au minimum un triple programme et à partir de ce moment-là, vous n'êtes même pas présent sur les événements de votre pays. Et quand je pense par exemple à Groupama FDJ qui est typiquement français, ils vont courir aux quatre coins du monde, mais il y a aussi des courses en France et ils doivent quand même présenter des coureurs sur les courses en France et doivent être représentatifs, d'où les équipes de développement. Mais ces équipes de développement coûtent aussi de l'argent, évidemment.
Mm-hmm.
Et là, je pense que dans la volonté de l'UCI d'avoir une tête de pyramide, un sommet de pyramide en or, on oublie souvent la base.
Mm-hmm. Je lisais
et donc, la base, ce sont des jeunes.
Hein. Mm-hmm. Je lisais justement hier une interview de Serge Arsenault, qui est donc l'organisateur des Grands Prix de Québec et de Montréal au Canada, qui estimait, selon lui, que justement, le problème du cyclisme actuel était qu'il y avait trop de courses, un calendrier trop fourni, en tout cas au niveau des professionnels, et qu'il fallait peut-être revenir à un World Tour encore plus réduit, avec un calendrier des meilleures courses avec les meilleurs coureurs et que seulement ensuite on imagine une sorte de deuxième division cycliste pour en dessous du World Tour pour permettre ensuite de monter de niveau grâce à un classement sportif. Ça c'est quelque chose, on le sait, ça fait longtemps qu'on y songe à l'UCI, qu'on y revient au fil des années. Est-ce que vous, c'est un modèle qui vous semble viable ou justement vous préférez entre guillemets le modèle actuel un peu historique, je vais dire, où certes il y a des grandes courses mais malgré tout il y a tout un calendrier professionnel, pas qui se vaut mais qui reste plus ou moins à un même niveau?
Bah écoutez, moi je vois les choses de la manière suivante. Je constate que les monuments restent les monuments.
Mmh.
Et que, sans décrier nullement certaines autres épreuves qu'on a voulu propulser au même niveau, et vous parlez des épreuves canadiennes, on pourrait en citer d'autres. Moi, je pense qu'effectivement, le calendrier aujourd'hui, même pour une équipe World Tour, est beaucoup trop chargé. Et que cette volonté d'internationaliser le cyclisme à tout prix, en envoyant des équipes en Argentine, en envoyant des équipes en début de saison en Australie ou en Afrique du Sud, en essayant d'avoir un tour en Chine qui appartient au World Tour, on enlève quand même quelque chose de potentiel qui est finalement une sorte de compétition où, avec des classements individuels, des classements par équipe, etc., on sent très très bien qu'à un certain moment, en fin de saison, on envoie des équipes au bout du monde parce que on est obligé d'y aller et voilà. Mais ça coûte de l'argent, ces déplacements, les partenaires ne peuvent pas tout payer, etc. Moi, je suis assez de l'avis de réduire franchement le programme et de structurer cela, peut-être en voyant moins l'internationalisation, c'est-à-dire en ayant un programme World Tour. L'Europe Tour, je trouve moi que c'est très très bien et je me dis que l'on pourrait essayer de développer les autres continents en développant vraiment le vélo dans ces continents-là. Il y a des pays d'Amérique du Sud, je pense à la Colombie, je pense à l'Argentine où c'est assez bien développé. Il y en a d'autres où c'est nettement moins populaire. C'est la même chose pour d'autres continents, pour l'Afrique par exemple. Je pense que amener les équipes du World Tour dans tous les continents, ce n'est pas la bonne solution parce que le cyclisme conserve des berceaux et ces berceaux aujourd'hui, entre vous et moi, ça reste quand même l'Europe et je vais dire même la vieille Europe. Donc voilà, on commence à avoir un tour de Roumanie, un tour de Bulgarie, etc., etc., qui ont aussi un niveau valable maintenant d'organisation. Mais moi, je pense que le programme est beaucoup trop chargé. Et ce qui m'ennuie très, très fort, c'est que dans l'évolution du cyclisme et dans ce marketing étatique qu'on a vu naître au cours des 3 dernières années, en gros, c'est que dans ces gros budgets-là, il n'y a plus rien qui arrête les gens. Et donc, on voit apparaître des procurateurs qui viennent du monde du football, des managers. On a parlé de Mendes. Si les budgets continuent à monter, ces gens-là, qui ne voient que l'argent, mais pas l'intérêt de l'athlète, vont intervenir. Et là, je pense que l'UCI et le cyclisme va passer du modèle qui est le sien aujourd'hui vers un modèle du grand argent. Il pourrait y avoir des aspects positifs, mais il y aura sans doute des aspects très négatifs. C'est qu'on va avoir des transferts en cours de saison, qu'une équipe qui a un coureur ne peut pas bloquer son coureur quand il va chercher le double ou le triple ailleurs. On vient de voir avec Hirschi, bon, il y a des
C'est l'exemple que
discussions,
j'allais
l'équipe ne
revenir.
voulait plus. Oui, bon, mais je pense que ce genre d'éléments-là n'est pas intéressant. Il peut y avoir, en calquant sur le football, un élément intéressant, c'est qu'un jour, on rétribue d'une façon raisonnable les droits de formation. Parce que là, il y a un grand manque. Quand je vois des équipes comme l'équipe de Savio en Italie, qui va chercher des jeunes de 17 ans et qui, après 2 ans, il se retrouve chez Ineos. Quand je vois l'équipe d'Axel Merckx qui forme une quantité de jeunes et puis qui se retrouve en difficulté parce que les partenaires ne peuvent pas toujours suivre ou ne peuvent pas suivre éternellement, je me dis que là, il y a un vrai manque, hein. Celui qui a formé Fellaini quand il avait 9 ans, eh bien, il touche toujours aujourd'hui, hein.
Oui, c'est
Et
ça,
là,
c'est.
dans le modèle du football, il y a quelque chose que le cyclisme veut atteindre, mais je pense que l'UCI ne veut pas ce système-là. Parce que dans ce système-là, on perd un peu la prise sur les équipes, on perd un peu la prise sur le système. Et donc là, il y a de très grosses discussions à avoir, mais le tout grand argent dans le vélo, pour moi, peut avoir un aspect négatif.
Je voulais
Oui?
revenir sur la fin, sur les cas justement de Tom Dumoulin, de Marcel Kittel ces dernières années, donc qui ont décidé de prendre du recul par rapport à leurs carrières respectives, qui ont décidé de quitter le peloton justement par rapport à leur mental, à leur état psychologique qui n'était plus bon pour continuer leur profession. Est-ce que vous pensez que actuellement, maintenant, on en demande trop aux coureurs, qu'il y a vu justement qu'il faut obtenir des points partout, qu'il faut absolument briller sur les grands tours, sur les classiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé justement à un point où on demande trop à certains leaders?
Moi, je pense que les choses n'ont pas énormément changé venant de la demande des équipes. Ce qui a changé, c'est le pouvoir des différents réseaux sociaux qui met une pression énorme et souvent une pression qui vient de gens qui n'y connaissent pas grand-chose, malheureusement. Et je vois aujourd'hui, je lisais aujourd'hui dans la presse, que Compagnie disait, moi, je ne lis pas la presse. Il fait bien parce que je pense que toutes les critiques à son égard, qu'elles soient justifiées ou pas, je n'en sais rien, le perturberaient très très sérieusement. Et je pense que des garçons comme Dumoulin, qui est quelqu'un que j'apprécie, ou comme Kittel, ils ont un peu succombé à la pression de tout ce qui est médiatique et de tous ces réseaux sociaux où, bah, vous le savez comme moi, on peut être adulé par quelqu'un, mais détruit par quelqu'un d'autre. Finalement, moi, j'ai l'habitude de dire exactement ce que je pense, et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça, j'ai grandi comme ça, et je ne vais pas changer. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde, et celui qui veut plaire à tout le monde, je pense qu'il va tomber très très vite en dépression. Donc, je pense que c'est pas le système du cyclisme qui met la pression sur les coureurs aujourd'hui. C'est vrai que tous les déplacements, ça a tendance à fatiguer, mais bon, on a quand même des moyens de déplacement aujourd'hui qui sont nettement supérieurs à ce que Rick Van Looy a connu. Je pense, moi, que c'est la pression médiatique et tous les réseaux sociaux qui abîment manifestement dans des critiques aisées le mental de certains coureurs qui sont un peu plus fragiles, sans doute, qui sont un peu plus attentifs à ce qu'on pense d'eux, à ce qu'ils doivent faire, à ce qu'on attend d'eux, etc.
Vous, justement, c'est que vous n'êtes pas publiquement sur les réseaux sociaux, mais est-ce que vous lisez malgré tout? Est-ce que vous y restez attentif?
Je suis sur les réseaux sociaux pour voir un peu. Je suis des sportifs professionnels, des coureurs professionnels, voilà. Hommes et femmes. Et quelques jeunes aussi, mais simplement pour avoir une information, puisque je suis encore consultant à droite à gauche, donc pour avoir plus d'informations, mais c'est rare que je réponde à quelque chose, et je ne publie rien du tout.
Pour revenir justement sur votre rôle de consultant, comment est-ce que vous vous préparez justement maintenant aux commentaires, que ce soit de cyclocross ou les courses routes vu que la saison reprend?
Écoutez, la préparation, comment vais-je dire, j'ai pas l'habitude de me préparer vraiment, sinon aller voir les circuits parce que c'est ma passion, le cyclocross. Aussi en fonction de si je dois par exemple faire le Grand Prix Samin, je vais regarder par où il passe, etc. Avec le temps, on connaît un peu toutes ces routes. Et puis la documentation, les journaux, souvent par la voie de l'internet plutôt que par le papier. Et je vais dire que en gros, ça se limite à ça. Ça m'arrive aussi avec quelques coureurs avec lesquels j'ai de bons contacts, de passer un petit coup de fil, mais qui est amical à un moment où on peut les avoir en ligne sans les ennuyer, en fait. Hein. Mais bon, ça se limite à ça. Et puis, le reste, c'est se retrouver face aux journalistes, comme avec vous, je vais dire, analyser la course avec son propre ressenti et ce qu'on en connaît, et puis essayer de répondre le mieux possible aux questions des journalistes ou aux questions qui maintenant passent parfois en sous-écran, etc. Voilà, mais je vais dire, prendre 24 heures de préparation, je ne fais pas ça du tout, mais je me documente tous les jours, si on avait fait ça aujourd'hui par vidéo, vous auriez vu que j'étais occupé à lire une page du Newsblatt qui parlait des salaires, etc. Et bon, ça, je me documente assez bien et ça me permet de voir aussi l'évolution par rapport à la période où nous étions encore actifs au niveau professionnel, en fait.
Vous voyez faire ça encore combien de temps, consultant?
Ah, je n'ai aucune idée. Franchement, je n'ai aucune idée. Je pourrais, je pense, encore faire ça pendant 3 ans, mais je pourrais décider de m'arrêter demain parce que je préfère faire du vélo moi-même.
Je comprends totalement.
Donc j'en ai fait énormément. En fait, je suis arrivé, je suis franc avec vous, à un moment de ma vie où on n'arrivera plus à me faire faire quelque chose qui ne me motive pas. Donc si je sens que ça commence à m'ennuyer, eh ben je vais les prévenir gentiment que il y a certainement d'autres jeunes qui poussent à la porte et qui doivent se tourner vers ces jeunes. Je pense que je serai plus longtemps actif dans le cyclocross que sur la route, effectivement. Parce que même si je suis toujours passionné des courses et si j'essaye de voir le plus possible à ce niveau-là, le cyclisme d'aujourd'hui, tel qu'il a évolué, me convient moins bien philosophiquement que ce que moi j'ai connu par le passé.
Je comprends.
Bon, le plus beau cyclisme pour moi, c'est la période qui va de Van Looy à la fin d'Eddy Merckx.
Ok.
C'est pour moi le cyclisme qui me correspond philosophiquement. C'est celui aussi que j'ai connu sur le vélo, évidemment.
C'est ça
Donc
aussi.
ça, c'est ben, bien sûr.
L'expérience est là.
Oui, mais vieillir, c'est ça, hein. Le reste, je l'ai suivi avec ma propre équipe, que ce soit en Italie, que ce soit ici en Belgique, mais voilà. Mais pour être franc avec vous, si la santé reste ce qu'elle est, tant que je ne bafouille pas, ça va. Mais le jour où je vais sentir que je vais bafouiller, je vais m'arrêter tout de suite parce que les gens qui s'intéressent au vélo méritent mieux que ça.
Merci à Gérard Bullens pour ses réponses toujours franches et pour sa disponibilité. La tête dans le guidon revient le mois prochain avec un ou une autre invitée. Si vous avez des commentaires, des questions, des propositions, n'hésitez pas à me les communiquer via Twitter sur @gregienco, GREGIENCO. Vous pouvez également suivre l'actualité cycliste sur cyclismerevue.be et poursuivre votre découverte de podcast sur blueprint.pm. Merci à eux pour leur soutien et merci à Alice, aka la Mona Loca, pour le superbe logo de l'émission. Merci encore pour votre écoute et à bientôt sur Cyclisme Revue et Blueprint.